Bonjour à tous, bienvenue à la Grande Table, dernier rendez-vous de la semaine. Nous sommes ensemble jusqu'à 13h30 pour une émission au cours de laquelle nous allons parler de danse, de théâtre, de cinéma, mais aussi de travail.
Le travail, une problématique au cœur des préoccupations de nos invités en seconde partie. Nous serons avec Zabou Breitman qui met en scène La Médaille au Théâtre du Rond-Point à Paris. Une pièce grinçante et burlesque avec pour cadre une entreprise et pour prétexte une cérémonie de remise de médaille du travail. La documentariste Mariana Otero sera également avec nous. Son prochain film sort en salle mercredi prochain. Entre nos mains raconte le combat des salariés d'une entreprise de confection de lingerie pour tenter de monter une coopérative. Enfin, troisième et dernier invité, le romancier Philippe Binstingel. Retour aux mots sauvages raconte le quotidien dépressif et mécanique des employés d'un centre d'appel téléphonique. Breitman, Otero, Binstingel à partir de 12h50.
Un autre trio que nous avons à faire jusqu'à 12h30, un trio de passionnés de théâtre et de danse. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Priscilla Pizzato, Anna Sigalevitch et Véronique Klein. Bonjour à toutes les trois.
Bonjour.
Et décidément, le chiffre 3 est bien le chiffre du jour, puisque dans quelques minutes, vous nous direz ce que vous avez pensé des trois ballets de Roland Petit proposés ces jours-ci à l'Opéra Garnier à Paris.
Mais pour commencer, Tchekhov, non pas avec les trois sœurs, mais avec une autre pièce majeure du grand auteur russe, La Cerisée. La Cerisée jusqu'au 24 octobre au théâtre de l'Odéon, dans le quartier du même nom à Paris, un spectacle donné dans le cadre de la 39e édition du Festival d'automne. Alors sur le papier, ce qui est proposé est assez alléchant. Une vraie troupe de comédiens, dont certains issus du Théâtre National de Strasbourg, la présence de Jeanne Balibar pour la partie vedette, une immense verrière en guise de décor, la mise en scène qu'on suppose audacieuse de Julie Brochen, des parties chantées et même des musiciens. Beaucoup d'ingrédients, tout ça pour raconter l'histoire de cette Cerisée, vaste propriété dans laquelle Lioubov Andreevna est de retour après un séjour à Paris. Sa famille, ses amis sont là pour fêter ce retour, mais une fête de courte durée. L'héritage a été dilapidé, plus d'argent, il va falloir vendre la Cerisée et les souvenirs qui vont avec. Il y aurait pourtant bien un moyen de sauver cet endroit en l'adaptant aux exigences du monde moderne, puisque nous sommes au tout début du XXe siècle, mais Lioubov et son frère s'y refusent. Alors c'est un des derniers grands textes d'Anton Tchekhov, un très beau texte. Pour celles et ceux qui ne le connaîtraient pas encore, soit le texte, soit la pièce, est-ce qu'il faut leur conseiller de le découvrir dans cette version du théâtre de l'Odéon, Priscilla Pizzato?
Écoutez, pour cela, il faudrait que le texte nous parvienne bien, ce qui n'est malheureusement pas le cas, je trouve, dans cette mise en scène. Je suis très embarrassée avec ce spectacle parce que, globalement, je suis déçue. Et en même temps, je trouve que Julie Brochen dessine des pistes, explore des pistes qui sont belles.
Julie Brochen, metteuse en scène, je vais y arriver.
Voilà, explore des pistes qui sont belles, comme, autour, comme celle autour du songe, d'une cerisée rêvée, de l'illusion. Tout ça, c'est assez beau. Malheureusement, il y a trop de choses, trop d'idées qui font écran à l'émotion et qui font écran au texte. Je vais commencer par ce décor qui est très beau en soi. Hein. Scénographie de Giulio Terrazzoni, magnifique. Grande verrière qui occupe le centre du plateau, mais qui est un été noir pour les voix. Les personnages rentrent, on n'entend plus. Ils sortent, on entend, ils rentrent. Hein, voilà. Ça étouffe les voix. Donc, il y a des pans entiers de texte qui disparaissent. Donc, vous me disiez, pour des gens qui ne connaîtraient pas la Cerisée, malheureusement, il faut connaître sa Cerisée sur le bout des doigts pour là bien combler les trous par nous-mêmes. Donc ça, c'est un problème. Par ailleurs, elle fait se chevaucher très souvent les voix. Là aussi, ça étouffe le texte. Les personnages parlent les uns sur les autres, donc ils s'annulent. Et je trouve qu'on perd ce que moi, j'adore. d'or chez Tchekhov, entre autres, qui est cette écriture chorale, qui est que chaque personnage compte et apporte sa touche, comme ça, par petits points, pour dessiner le motif général. On perd ce mélange de trivial et de gravité qu'il y a dans les conversations bavardes de tous ces personnages de La Cerisée.
Mais est-ce qu'au moins, justement, ce mélange des voix et ces voix qui s'éteignent servent le propos de la pièce ?
Ben non, parce que à partir... Non, moi, je trouve pas. Moi, j'ai besoin d'entendre autant Dunyasha tous les autres personnages, que Yasha et ses rêves d'ailleurs, que Charlotta qui raconte son enfance. Tous sont confrontés à leurs fantômes, à leur solitude, mais vont aussi à un moment réclamer leur pelisse ou leur cigare. Et c'est ce mélange, encore une fois, de trivialité et de gravité qu'on a besoin d'entendre. Et si on perd une partie de ça, malheureusement, on perd quelque chose d'essentiel. Mais que c'est beau quand tout d'un coup, le texte se fait entendre sans ses scories, sans tous ses artifices. Et il y a une scène qui est magnifique entre Lyubov Andreyevna, donc Jeanne Balibar, et Trofimov, Petia, pour les intimes. Trofimov, c'est ce jeune étudiant idéaliste qui, comme souvent chez Tchekhov, a de très belles idées, mais est absolument incapable de les mettre en action. Et il dit à Lyubov Andreyevna, mais détachez-vous de La Cerisée et détachez-vous de cet amant qui vous rappelle à Paris et qui vous a ruiné financièrement et économiquement. Et là, Lyubov Andreyevna, et je trouve que Balibar, à ce moment-là, est intense de douleur, de conviction, réclame un droit à aimer cette Cerisée, à être attachée à cette Cerisée où sont les fantômes de son enfance, mais aussi de son enfant mort dans le lac de la Cerisée. Elle dit son droit à aimer aussi cet homme qui l'attend à Paris et qui pourtant la maltraite. Elle est dans un rapport charnel aux êtres, aux choses. Et je trouve que là, on entend parfaitement le texte et ce personnage de Lyubov Andreyevna qui n'est pas juste cette femme oisive et irresponsable, mais qui est une femme très belle et qui est un magnifique personnage tchékovien. Et voilà. Et quand on atteint ce moment-là, en fait, on se rend compte avec amertume de ce à côté de quoi on est passé.
Alors, une très belle scène dans une pièce qui dure 1h50, ça ne fait pas beaucoup. Juste pour l'anecdote, moi je suis allé voir cette pièce hier soir, chose très rare. Pas mal de spectateurs quittaient la pièce avant la fin, et à la fin, les acteurs se sont fait huer quelques voix. Mais enfin, c'est toujours assez désagréable. Anna Sigalevitch, est-ce qu'il y a davantage que cette scène dont parlait Priscilla à sauver dans cette Cerisée ?
Oui, moi je trouve qu'il y a davantage que cette scène-là. Déjà, le personnage qui est joué par Jean-Louis Coulloc de L'Opakine, je trouve très, très réussi parce qu'il a ce qu'il faut de bonhomie, de sympathie, de grâce et de bienveillance qui est très important et c'est assez difficile vu le contexte.
Peut-être juste dire qui est ce personnage.
L'Opakine, c'est un moujik, en fait. C'est un fils de moujik qui a fait fortune, qui est marchand et qui essaye de trouver des solutions pour sauver cette Cerisée. Donc, il propose notamment de raser la Cerisée et de construire des datchas pour que les estivants viennent en villégiature, ce qui est absolument inimaginable et insensé pour Lyubov et pour son frère Gaev. C'est absolument hors de toute... Enfin, c'est inenvisageable.
C'est vulgaire.
Ouais, c'est vulgaire. Et puis, c'est pas possible, quoi. Parce qu'elle, elle est vraiment en dehors de toute considération matérielle.
Elle dilapide l'argent, de manière très naturelle.
Elle dilapide de façon naturelle, mais... Elle dilapide par gentillesse, et parce qu'elle est en dehors de cette réalité économique. C'est des choses qui la dépassent et qui lui échappent.
Donc un personnage qu'on sauve.
Voilà. Non, plusieurs personnages. Je trouve que le Vincent Macken qui joue Trofimov est vraiment bien. Alors il y a quelque chose un peu du grand guignol dans sa scène. Donc c'est la même scène, hein, quand il parle avec Petia et quand il parle avec Anya, la fille de Lyubov, sa vraie fille qui a 17 ans, où ils ont une grande scène comme ça. Alors ce dont parlait Priscilla, qui est juste, où c'est vrai que les personnages ne se répondent pas toujours, mais moi je pense que le texte est aussi écrit comme ça, c'est-à-dire que ça commence par des dialogues et ça s'échappe beaucoup vers des monologues où les personnages sont chacun dans leur partition. Et ça, c'est vrai que c'est bien transmis. On ne sent pas vraiment de troupe dans la pièce de Julie Brochaine. On sent des partitions et des acteurs qui jouent assez différemment les uns des autres.
Voilà, il y a un vrai foisonnement. Il faut dire qu'il y a une douzaine de personnages.
Oui, il y a une douzaine effectivement... de personnages qui sont tous importants. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une action. Enfin, oui, il y a cette histoire de Cerizet, mais il y a plein d'actions en permanence et on passe d'une idée à l'autre et on passe d'un sujet à l'autre tout le temps. Bon, ça, c'est assez réussi. Et moi, je trouve que la proposition de Julie Brochen est intéressante et pertinente par rapport au texte, parce qu'il y a quelque chose de l'ordre de la désagrégation dans cette pièce. On est à la fin d'un monde, on est juste avant la Révolution, on est... Donc, il y a comme ça cette ambiance un peu oisive d'aristocratie désargentée où tout va à volo, qui marche. Qui marche. Il y a une mise à distance comme ça un peu du spectateur qui, alors un peu trop, mais en même temps je trouve que la proposition est juste par rapport à la pièce quoi.
Alors plutôt oui pour vous Anna, plutôt non pour Priscilla. Véronique Klein, qu'est-ce que vous avez pensé de cette Cerizet 2010? Est-ce qu'il fallait la monter?
Alors non.
Voilà qui est clair.
Non, c'est vraiment une Cerizet de plus pour quoi faire, à mon sens. Et Julie Brochen s'est complètement perdue dans sa mise en scène. Elle fait une inflation de mise en scène. Elle cherche du sens, là, il n'y en a pas. Elle ne fait pas confiance au texte. On a des effets en permanence. C'est cacophonique. Moi, je n'ai rien entendu de ce texte, rien. Mais j'en veux pas aux acteurs, parce que je pense que les acteurs ont été dirigés comme ça. Et effectivement, il y a Jean-Luc Coulocq et Fred Cacheux qui jouent Yasha, qui échappent un peu à la contamination hystérique. Mais c'est vraiment les seuls. Et pour moi, le moment où enfin on pouvait un peu voir le théâtre advenir, c'est la fin, quand le vieux domestique qui est le seul devant la Cerizet sort le texte de sa poche, lit son rôle avec les didascalies, et là on est vraiment devant la simplicité et on entend Tchekhov pendant 2 minutes et on se dit mais voilà le spectacle aurait pu être comme ça. Et on pense aux Belges de Tejestan qui auraient monté une Cerizet simple sans artifice de décor et je crois vraiment que le problème de Julie Brochen avec ce texte, c'est qu'elle veut faire le metteur en scène qui va laisser sa trace dans le texte de la Cerizet, que tout metteur en scène doit monter à un moment ou à un autre pour gagner ses galons. Or, ses galons, elle les a déjà, les directrices nationales du Théâtre National de Strasbourg. Et je crois qu'elle pourrait justement en profiter pour être beaucoup plus audacieuse et simple.
Et bien voilà, ça s'appelle donc La Cerizet de Tchekhov. C'est mis en scène par Julie Brochen. C'est au Théâtre de l'Odéon à Paris jusqu'au 24 octobre.
C'est autour de la musique de Joseph Kosma que nous allons peut-être vous réconcilier, puisque l'Opéra Garnier a eu la bonne idée de représenter jusqu'au 9 octobre 3 ballets du chorégraphe Roland Petit créés dans les années 40, Le Rendez-vous, Le Loup et Le Jeune Homme et la Mort. Alors autant dire 3 chefs-d'œuvre dont on imagine qu'à l'époque ils avaient fait l'effet d'une bombe. Roland Petit, 86 ans, est l'une des figures majeures de la danse de ces 50 dernières années. Il appartient au registre classique, mais sa collaboration avec les plus grands artistes du moment et ses chorégraphies sont incroyablement moderne. J'ai écrit 100 ballets, dit-il, la moitié tient encore le coup. Est-ce que c'est votre avis déjà, Anna Sigalevitch?
Ah oui, c'est mon avis, vraiment. Cette soirée m'a énormément plu, m'a complètement enthousiasmée et même m'a surprise. Parce que, bon, j'étais très contente d'aller voir Roland Petit, c'est un chorégraphe que j'aime beaucoup de ses ballets, même si je trouve que certains sont un tout petit peu daté, mais bon, j'étais contente. Et vraiment, j'ai passé une excellente soirée. J'ai eu l'impression de vivre un moment presque historique, quoi. Avec ces 3 œuvres de jeunesse qui sont quand même encore vraiment... Enfin, bon, surtout, je pense, Le Jeune Homme et la Mort, qui est d'une modernité...
Qui traverse les âges.
C'est extraordinaire. Enfin, je pense que ça pourrait être... C'est un ballet qui pourrait être créé aujourd'hui par Kylian, par exemple, et tout le monde créerait Eugénie. C'est-à-dire que c'est extraordinaire de modernité et de risque et de simplicité et physiquement d'engagement mouvement et ça propose aux danseurs une interprétation extraordinaire.
Alors il faut dire, Anna, que vous l'avez vu aussi dans des conditions particulières, puisque oui. Le soir où vous y êtes allée, j'y étais avec vous, hein, oui. Donc je peux le dire, nous avons eu la chance de voir d'abord le défilé du ballet, ouais. Puis un supplément d'âme avec une pièce Proust,
oui,
c'est ça ?
Absolument, Proust ou les intermittences du cœur. On a eu des extraits, c'est une pièce qui a été créée en 1974. Alors je vais dire un mot du défilé que je trouve... Bon, ouais, je crois que c'est la deuxième fois que j'ai la chance de le voir. Ils le font toujours pour le début de la saison.
Donc tout le ballet défile, des petits ballet, danseurs voilà. Aux plus grands.
Voilà, donc il y a l'école de danse, donc ça commence avec la 6e division, 5e, 4e, 3e, qui marchent sur la marche de Berlioz. Et elles ne font que marcher. Et elles arrivent devant le plateau, elles saluent, port de bras, et elles s'en vont élégamment. Et tout ça est d'une
précision. Et ensuite les hommes, hein, les garçons et les hommes, vous dites-elle.
Oui, absolument. Donc ça va jusqu'aux étoiles, et ensuite on recommence avec les garçons, 6e division, jusqu'aux étoiles, où on sent tout le public, enfin toute l'ambiance du public de l'Opéra de Paris, où il y a des aficionados, ça se sent, il y a un grand plaisir à voir ces danseurs défiler, les étoiles sont ovationnées, c'est un moment que je trouve très émouvant sur cette marche de Berlioz et très précis.
Que je sois bien sûr d'avoir compris, parce que moi je n'étais pas invitée, oui. Hein, avec vous Anna et Caroline.
On ne peut pas être partout.
Ce défilé-là, c'était juste pour la première représentation, on peut le voir à chaque fois.
Non, c'était juste pour la première.
C'était exceptionnel.
Oui, c'était exceptionnel.
Alors on passe maintenant à Roland Petit, peut-être on va prendre les choses dans l'ordre, mm-hmm. Puisqu'il y a trois ballets. Le rendez-vous d'abord, c'est le deuxième ballet important de Roland Petit, mm-hmm. Après Les Forains, créé en 1945. Un homme à qui l'horoscope prédit sa mort tente d'échapper à son destin, mais il le rencontre sous les traits de la plus belle fille du monde. Mm. Il faut dire quand même un mot de la scène, de la scénographie, argument de Jacques Prévert, musique de Joseph Kosma, rideau de scène de Pablo Picasso, décor de Brassailles, excusez du peu. Hein. Ouais. On a toute l'ambiance des films de Marcel Carné, c'est là qu'on entend la musique de Joseph Kosma. Toute l'ambiance recréée sur scène, Anna.
Oui, complètement, complètement. C'est un ballet qui est vraiment marqué à cette période-là, qui du coup, je trouve, n'est pas daté, parce qu'il est tellement marqué dans cette époque que ça ne fait pas dater. C'est un pan comme ça d'histoire qui et la chorégraphie est absolument sublime, quoi. C'est-à-dire que nous on l'a vu danser par Nicolas Le Riche.
C'est pas rien. C'est une chance.
Voilà, c'est une chance. Je pense qu'il faut dire que c'est le plus grand danseur de l'Opéra de Paris, voire du monde. Enfin,
on se calme.
C'est un danseur extraordinaire.
Non, elle a raison.
Pour moi, c'est comme Guilhem Le Riche. Il arrive sur le plateau, il occupe tout l'espace, il a une présence extraordinaire.
Fluidité.
Ouais. Et une amplitude de mouvement. Il joue, il est précis, il est poétique. Enfin, il a absolument tout, quoi.
Priscilla ? Et il nous raconte des histoires. Mm. Et lui, et bien sûr, la chorégraphie de Roland Petit, ce qui est magnifique dans cette soirée. Donc, vous le disiez, c'est un peu le wouzou du Paris artistique de l'immédiate après-guerre. C'est vrai que chacun de ces ballets nous raconte une histoire d'amour et de mort. C'est très sombre, hein, quand même. Hein. Mais chaque geste chez Roland Petit, chaque mouvement est lourd de sens et on est saisi tout de suite, en fait. Alors, le jeune homme et la mort, évidemment, c'est un peu le clou de la soirée. Moi, c'est la troisième fois que
on va y venir tout à l'heure.
D'accord. Mais voilà, ce génie de la narration qu'a Roland Petit, cette danse qui mêle à la fois les bases classiques, mais qui regarde aussi vers Broadway, vers Hollywood, tout ça nous fait passer une soirée qui, en effet, nous fait revisiter un Paris qui est le Paris des artistes de l'après-guerre, mais qui n'a pas pris une ride, peut-être un peu sur le loup. Et encore, dès que le pas de deux commence entre le loup et la jeune fille, une telle grâce, les portées sont magnifiques.
Alors, le loup, avec l'écrivain, à partir d'un argument de Jean Anouilh, la peinture de Jean Carzou, la musique d'Henri Dutilleux. Là, c'est plutôt une variante tragique de La Belle et la Bête. Un mot de l'histoire, le jour de ses noces, un jeune marié s'enfuit avec une bohémienne. Grâce à la complicité d'un montreur d'animaux, un peu magicien quand même, il fait croire à sa jeune femme qu'il s'est changé en loup. La mariée s'en va donc tranquillement au bras de celui qu'elle prend pour pour son époux. Elle découvre vite que le loup qui est à son bras est un vrai loup. Mais une fois sa frayeur passée, elle se sent attirée par cet être incapable de faiblesse, de mensonge, à la grande différence des gens du village qui, quand ils apprennent qu'un loup est parmi eux, n'ont qu'une envie, c'est le chasser. Voilà, c'est un ballet un peu plus classique, hein, Véronique, cette fois, un ballet plus classique, malgré tout, des couleurs très chatoyantes, et puis effectivement ce mélange de la chorégraphie très classique et d'une mise en scène, d'une chorégraphie, à vrai dire, assez moderne là encore.
Oui, d'une mise en scène qui est effectivement lorgne du côté du musical. Et on trouve aussi dans le loup, on voit vraiment comment Roland Petit est extrêmement fort pour chorégraphier les pattes d'eux et le groupe. On voit vraiment comment est-ce que plus tard il va chorégraphier Notre-Dame de Paris ou des revues de cabaret. Je trouve que dans le loup, on a ce sentiment-là déjà. Après, il y a quelque chose de totalement suranné, un peu kitsch dans la pièce, le décor avec cette forêt en surimpression comme ça, qui est complètement comme des papiers découpés un petit peu. Et voilà, je trouve que effectivement,
c'est
la moins intéressante. En même temps, elle marque vraiment aussi l'histoire de la danse, et on voit aussi la future trajectoire de Roland Petit.
Un mot, Anna, sur
oui,
le loup.
Oui, je trouve qu'il y a de l'humour dans le loup. Enfin, c'est-à-dire que cette espèce de personnage qui est assez une figure assez géniale, avec les mains crochues, comme ça, une masque. Il a un masque, il a des crocs qui descendent, il tremble. Enfin, je trouve que la figure du loup est très réussie et drôle. Enfin, il a une sorte de moquette sur le torse, comme ça, en fond. Enfin, c'est hyper drôle, quoi. Moi, je trouve que c'est un mélange comme ça. Et je voudrais noter l'interprétation d'Émilie Cosette, que j'ai trouvée vraiment très juste,
qui joue la jeune fille, la jeune mariée,
voilà, qui est étoile depuis pas très très longtemps, je crois, et que j'ai trouvé d'une justesse très incarnée, hyper légère, et en même temps dans le sol, les pas de deux fonctionnaient, le pas de deux avec le loup est vraiment un moment de grâce
magnifique.
Magnifique, et quand ils sont séparés par les portes, mais je pense que c'est vraiment tout le talent de Roland Petit, l'art du pas de deux, mais c'est dément, quoi.
Qu'est-ce que vous appelez l'art du pas de deux? Essayez de développer un peu.
Alors, l'art du pas de deux, c'est-à-dire que il arrive à se faire enchevêtrer les corps et il y a beaucoup de portées qui sont très organiques. Je pense notamment au pas de deux dans Clavigo, où il y a un pas de deux
qu'on ne voit pas là.
Non, là qu'on voit pas, mais Clavigo, c'est une pièce qui, je sais plus, des années 90, je crois. C'est pas très,
c'est récent,
c'est plutôt récent. Et il y a un pas de deux où il s'embrasse sur la bouche pendant 2 minutes. C'est sublime, parce qu'il a il y a une sensualité dans sa danse que je trouve incroyable, quoi.
Alors, sensualité qui touche à la quintessence dans Le jeune homme et la mort, Priscilla Pizzato. Argument de Jean Cocteau, musique de Bach et décor de Georges Makévitch. On écoute, c'est la Passacaille de Bach. Ceux qui ont vu ce spectacle, rien que d'entendre la musique de Bach donne la chair de poule. Alors je dis un mot de l'argument. On est dans une petite mansarde sous les toits. Un jeune homme seul attend. Entre une jeune fille qui s'élance, il s'élance lui vers elle, mais elle le repousse, se moque de lui, le bafoue, le fait tomber à terre. Et puis il lui tend une corde qu'elle montre avec son doigt et elle l'incite à se pendre. Il est d'abord effrayé, désespéré, puis il s'exécute. Et quand il arrive sur les toits, la mort est là, avec une robe de bal, un masque de mort. Elle ôte son masque et c'est la jeune fille du début. Je dis finalement toute l'histoire, tout l'argument, parce qu'il aide à comprendre à la fois la tension en 20 minutes, même pas je crois, 18-20 minutes de ce morceau, du jeune homme et la mort. Une pièce de 1946 et un spectacle qui n'a pas pris une ride, vous le disiez, Anna.
Pas une ride.
Alors Priscilla.
Écoutez, moi ce ballet, tout répertoire confondu, c'est l'un des plus beaux. Voilà. C'est une puissance dramatique qui vous bouleverse à chaque fois. On a beau le voir et le revoir, dès que ce jeune homme, donc dans sa mansarde, avait quand même des tableaux de Picasso au mur, dès que ce jeune homme écrase sa cigarette et commence sa danse d'angoisse, où se mêlent des mouvements vifs et lents qui disent à la fois la nervosité et l'abattement, le désespoir, qui montre cette porte, qui regarde cette porte, ce qu'il attend, cette jeune fille. On sent qu'il redoute à la fois son arrivée autant qu'il l'attend. Il y a comme une préscience de la mort. Et cette jeune fille rentre avec sa robe jaune, ses cheveux coupés au carré, comme ça. Il y a
très
des
noir.
Équerres très noires, ses gants noirs, sur pointe. Je trouve que c'est génial de l'avoir mis sur pointe parce qu'il y a comme ça un contraste. Elle est une verticalité chez elle, des gestes qui viennent découper l'espace. Elle est dure, elle est vénéneuse, elle est cruelle. Et elle va jouer avec ce jeune homme, mais avec une perversité incroyable. Donc elle, dans cette verticalité, lui qu'elle va jeter au sol, il va mordre la poussière à plusieurs reprises, ou le jeter en l'air dans des sauts d'une amplitude incroyable. C'est un ballet à la fois incroyablement dramatique, très acrobatique, ouais, et qui demande de la part du danseur autant de capacités techniques que de génie dramatique.
Alors, le jeune homme est joué en alternance par Jérémy Bellingard, Nicolas Leriche. Ouais. Vous l'avez vu dans quelle interprétation,
Véronique ? Jérémy Bellingard, magnifique.
Le temps danseur est suspendu. Étoile, complètement. Ouais. On est en apnée.
Il y a vraiment des moments où le temps est suspendu, on se demande s'il va retoucher terre. Et moi, j'ai vraiment trouvé des choses très drôles aussi. Quand la jeune fille apparaît dans sa robe jaune sur pointe, j'ai pensé à Uma Thurman dans Kill Bill. Mais je me disais, quand même,
rôle en petit. Super héroïne, ouais, c'est vrai. Ouais.
Voilà, en 46, il y avait déjà des personnages comme ça.
Ce personnage de la mort, de la jeune fille, est joué en l'occurrence par Alice Renavant.
Oui,
Anna,
je l'ai vu jouer par Alice Renavant.
Défendre.
Que je voudrais défendre, parce que je trouve que c'est une danseuse sublime, hyper incarnée, qui a une technique impeccable. Et je la vois très souvent distribuée par des grands chorégraphes qui sont invités. Et cette danseuse n'est que sujet. Et je ne comprends pas, parce que je trouve qu'elle elle mériterait d'être première danseuse ou étoile, quoi. Vraiment, elle est sublime techniquement. Dans le contemporain, elle est magnifique. Et dans ce ballet, elle arrive à occuper beaucoup l'espace. Elle prend de la place, ce qui n'est pas forcément évident, hein, parce que c'est quand même la partition du jeune homme est absolument incroyable. Et je trouve qu'elle arrive à occuper une place très importante. Et que c'est très beau, quoi.
Et le duo est important, puisqu'il y a une sexualité torride, dans ce ballet. Ouais,
c'est-à-dire qu'elle a très forte charge érotique.
Sauvage. Et donc, rien que pour ce spectacle, courez-y, trois ballets de Roland Petit à l'Opéra Garnier à Paris, c'est jusqu'au 9 octobre.
Allez, on se retrouve à 12h50, où on va un petit peu redescendre sur Terre, puisque nous allons parler du monde de l'entreprise avec nos invités, Mariana Otero, Zabou Bretman et Philippe Bastingel. Et puis, en toute fin d'émission, aux alentours de 13h20, ne ratez pas, nous reviendrons sur la disparition de l'acteur américain Tony Curtis. En 2005, Antoine Guillot l'avait rencontré à l'occasion du festival Jules Verne à Paris, et il avait eu la bonne idée de l'enregistrer.
France Culture fait nuit blanche, samedi 2 octobre de 23h à 6h du matin. Les passagers de la nuit vous donnent rendez-vous en direct et en public de la Bellevilloise, 20 rue Boyer, Paris 19e. Thomas Baumgartner vous y réserve quelques surprises entre émissions radio et happening, musique, interview, danse, reportage, sonomaton. Nuit blanche avec France Culture ce samedi 2. Tout savoir, tout écouter, franceculture.com.
Vous écoutez France Culture, 12h30. Le journal vous est présenté par Nadine Epstein, qui met son casque. Bonjour Nadine.
Bonjour. Au sommaire de ce journal, notre invité sera le philosophe et politologue brésilien José Arthur Gianotti. À 3 jours des élections présidentielles, tous les sondages donnent Dilma Rousseff gagnante dès le premier tour. Nous tenterons de comprendre pourquoi la protégée du président Lula évince tous les autres candidats. Auparavant, nous traiterons l'actualité française, marquée ce vendredi par la mise en examen du gendarme qui avait tué un gitan dans le Loir-et-Cher, événement qui avait déclenché toute la polémique sur les Roms, commentaire de Ludovic Piétenu. Nouvelle mobilisation mobilisation contre la réforme des retraites avant les manifestations de demain. La CGT a appelé à la grève dès aujourd'hui dans les ports et les docks, dossier suivi par Arnaud Poulard. Nous entendrons le commentaire du spécialiste de géopolitique Mathieu Guider au lendemain de la diffusion sur le net de photos et documents audio des otages retenus au Niger par Al-Qaïda Maghreb islamique. Éric de la Varenne nous appellera d'Islamabad. Une trentaine de camions citernes ont été incendiés ce matin au Pakistan pour priver l'OTAN de ravitaillement. Enfin, Laure de Villepian nous présentera le rapport de l'ONU sur les massacres commis en République démocratique du Congo entre 1993 et 2003. Rappelez-vous, en juillet dernier, de violents événements avaient secoué Saint-Aignan après qu'un policier a tué un gitan dans le Loir-et-Cher. Ce gendarme vient d'être mis en examen, Ludovic Piétenu, et cet événement avait aussitôt déclenché une polémique à la tête de l'État autour des gens du voyage et créé la confusion entre gitans, roms et roumains.
Oui, Nicolas Sarkozy avait repris à son compte dans son discours de Grenoble du 30 juillet ces événements en plus de ceux consécutifs au braquage du casino d'Uriage. Comment utiliser les faits divers d'un mois d'été dans un discours politique avisé électoraliste quand les sondages d'opinion, c'est le cas encore ce matin, le montraient au plus bas. La leçon magistrale avait été délivrée en grande pompe et continue aujourd'hui, 1er octobre, à agiter le débat public. D'où vient le souci de la surréactivité du président, de cette façon de reproduire presque naïvement pendant un mandat une technique qui fonctionnait certes, mais dans le temps court et agité d'une campagne présidentielle, de cette façon d'utiliser des éléments d'actualité pour dénoncer le cambrioleur, le trafiquant, le violeur, le multirécidiviste, le fou, le rom ou le gitan. Une utilisation abusive qui conduit à l'erreur. Immédiatement après ces événements, le chef de l'État avait convoqué une réunion ayant pour thème, je cite, « les problèmes que posent les comportements de certains parmi les gens du voyage » et les Roms. L'amalgame était né le 21 juillet dans ce communiqué. 9 jours plus tard, dans son discours isérois, il annonçait à la fois la fermeture de tous les campements illégaux de gens du voyage, la déchéance de nationalité pour les délinquants d'origine étrangère ayant tué une personne dépositaire de l'autorité, ou encore l'expulsion des Roms. Un discours quasi martial, écrit par un conseiller peu connu, Maxime Tandonnet, conseiller intérieur et immigration du président, dont Mediapart propose ce jour un portrait très intéressant. Manquerait sans doute à l'Élysée une plume qui décrirait les causes de ces maux et qui proposerait des solutions plutôt que de se concentrer toujours sur le seul angle de la sécurité.
Et donc Ludovic Piétenu rappelle que donc le gendarme qui a tué ce gitan a été mis en examen. Selon le journal Les Échos, la SNCF est en train de négocier pour obtenir la liberté des prix pour ses TGV. Des pourparlers ont été entamés avec le gouvernement pour assouplir la marge possible autour du prix de référence fixé par l'État. Si cette évolution se faisait, la SNCF augmenterait le prix des places en première classe et promet 50% de places à bas prix en plus. Alors que le débat sur les réformes des retraites commencera mardi au Sénat, tous les syndicats ont appelé à la manifestation demain et aussi à une autre journée d'action le 12 octobre si la réforme reste en l'état. Le numéro 1 de la CFDT espère que cette 6e journée mobilisera samedi entre 2 et 3 millions de personnes. Et pour éviter les polémiques et les écarts de chiffres concernant le nombre de participants au défilé, le secrétaire général de la CGT, Bernard Thibault, propose au gouvernement que les médias survolent et filme les manifestations. Cette mobilisation contre la réforme des retraites commence dès aujourd'hui dans les ports et les docks où la CGT a appelé à la grève jusqu'à dimanche en raison de la question de la pénibilité au travail. Arnaud Poulard.
Effectivement, le ton se durcit dans les ports du Havre et de Marseille. En Seine-Maritime, pour commencer, tous les terminaux à conteneurs, la principale activité du port, sont à l'arrêt. Dans le sud, cette fois, tous les accès au port de Marseille ainsi que de Fos-sur-Mer sont bloqués depuis ce matin par des dockers en colère. Il faut dire que la pénibilité, ils la connaissent bien, trop bien même. Pierre Lebas est secrétaire général de l'Union CGT du Havre.
Il y en a qui ont commencé à travailler à la manutention manuelle, c'est-à-dire des sacs, de café, de la viande congelée, de l'amiante. Par exemple, il y a beaucoup de salariés portuaires qui sont touchés par l'amiante. Et puis, donc maintenant, avec les nouvelles technologies, avec le nouveau matériel, qui travaille sur du matériel de grande hauteur, qui sont soumis au vent avec avec beaucoup de tension parce que c'est dangereux, parce qu'il y a en dessous des portiques, il y a aussi d'autres ouvriers qui sont à l'arrimage des conteneurs, etc. Donc voilà, il y a tout ça qui fait que oui, encore, il y a des métiers dangereux sur les ports.
Et le mouvement des dockers et des personnels portuaires se poursuivra tout le week-end et ils ont déjà prévenu, le mouvement sera reconduit samedi prochain si rien n'avance d'ici là.
Ouverture du Mondial de l'Automobile de Paris, le président du comité des constructeurs français d'automobiles annonce ce matin que le marché français a reculé de 8% au mois de septembre. Ce salon, inauguré ce matin par le président de la République, ouvrira ses portes au public demain. Nicolas Sarkozy recevra cet après-midi les familles des 5 otages français enlevés au Niger. Hier, Al-Qaïda au Maghreb islamique a mis sur le net une photo et un enregistrement audio des otages. Un des ex-otages de l'ACMI a déclaré ce matin avoir reconnu sur la photo diffusée par les ravisseurs l'un des chefs de l'organisation Abu Zaïd. Quoi qu'il en soit, il semblerait qu'on soit maintenant dans une opération de communication de l'ACMI, comme si le groupe voulait négocier. Nabila Hamel a recueilli l'analyse de Mathieu Guider, spécialiste de géopolitique et de veille stratégique, professeur à Genève.
La mise en scène indique cette volonté d'ouverture à la négociation dans l'avenir. Le chef de groupe qui a fait cette opération, le seul qui a paru à visage découvert, par la multiplication des prises d'otages ces derniers mois et la multiplication des coûts médiatiques, va prendre beaucoup plus d'importance. Ces revendications sont classiques, pour ainsi dire, dans le cadre de la mouvance djihadiste. C'est d'une part l'échange de prisonniers, c'est-à-dire la demande de libération d'un certain nombre de militants. Et d'un autre côté, c'est la contrepartie financière pour les otages.
Vous parliez de coûts médiatiques. Est-ce que, d'une certaine manière, en reprenant ces images, on n'entre pas dans cette propagande de l'ACMI ?
Je crois que la situation est très complexe et très difficile. C'est-à-dire, parler effectivement d'Al-Qaïda, diffuser ces images, les reprendre, c'est forcément contribuer à diffuser quelque part la propagande de l'organisation. Mais d'un autre côté, ne pas parler des otages, ne pas parler de leur captivité, c'est véritablement faire semblant qu'ils n'existaient pas. Et à partir de ce moment-là, c'est un risque pour leur vie. Parce que si on ne parle pas de nos otages, l'organisation considère qu'ils n'ont aucun intérêt pour leur pays et veut s'en débarrasser. Mais bien évidemment, il faut faire la part entre parler d'Al-Qaïda et parler des otages en tant que victimes. Cela dépend de la façon de présenter les choses.
Au Pakistan, des hommes masqués et armés ont incendié ce matin des camions citernes transportant du carburant destiné aux forces de l'OTAN en Afghanistan. Une douzaine d'hommes déjà désignés comme des extrémistes par les autorités de Karachi ont tiré en l'air pour faire partir les chauffeurs des camions, puis ont mis le feu à une trentaine de véhicules. Cette attaque dans le sud du Pakistan intervient au lendemain d'une frappe aérienne de l'OTAN en territoire pakistanais qui avait fait hier 3 morts. Éric de la Varenne.
C'est la première fois que des camions de l'OTAN sont incendiés dans cette région. En fait, dans le sud du pays, jusque-là épargné par la montée de l'extrémisme. Mais c'est en fait tout l'axe entre Peshawar et le sud du pays qui est désormais gangréné par le militantisme des militants. Évidemment ravis par les décisions prises par les autorités pakistanaises de fermer la frontière au convoi de ravitaillement des forces de l'OTAN en Afghanistan. C'est à la suite des incartades d'hélicoptères de l'OTAN en territoire pakistanais qui ont tué 3 soldats qu'Islamabad a réagi. Des centaines de camions sont donc bloqués et notamment une grande partie du ravitaillement en fuel essentiel pour les opérations aériennes. Une réunion d'urgence devrait se tenir à Bruxelles entre représentants pakistanais et responsables de l'OTAN. Islamabad exige un total respect de son territoire, déjà touché par les assassinats ciblés des drones américains en zone tribale. Des assassinats qui font de très nombreuses victimes civiles. Or, il y a actuellement au Pakistan un dangereux sentiment anti-occidental et une radicalisation de la population.
En tout début d'après-midi, l'ONU publiera les 600 pages de son rapport sur 10 années de violation des droits de l'homme en RDC, en République démocratique du Congo, entre 1993 et 2003. Le document avance également des propositions pour qu'un jour, il y ait une reconnaissance politique et judiciaire de ces exactions commises dans l'ex-Zaïre. Le détail avec vous, Laure de Villepian.
En langage onusien, on parle de mapping, ce qui signifie cartographie ou inventaire. C'est le fruit du travail d'une équipe de 33 personnes.
qui s'est appuyé au départ sur des rapports existants mais inédits. Leur enquête de terrain a duré 6 mois. Finalement, plus de 600 incidents, entre guillemets, sont documentés. Ils constituent autant de faits de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. Concernant d'éventuels crimes de génocide, les auteurs du rapport sont extrêmement prudents. Dans la version provisoire, ils précisaient qu'ils avaient buté sur la question essentielle de l'intention de détruire en totalité ou en partie un groupe en tant que tel. Cette accusation vise potentiellement le Rwanda pour la période 96-97, Kigali dément catégoriquement. Le rapport localise et décrit les attaques menées contre la population, victimes des armées de 8 pays, Congo, Rwanda, Burundi, Ouganda et Angola notamment, population otage des luttes entre 21 groupes armés irréguliers, ici les FDLR, ex-Interahamwe, là les Mai Mai, ailleurs les groupes ethniques Emma et Lendu qui s'affrontent. Tout cela sur un territoire immense et couvert de forêts propices au massacre. Le nombre des victimes est évalué à plusieurs centaines de milliers. Les gens ont été tués au marteau ou à la machette. Des femmes ont été violées, des enfants enrôlés de force. Sera-t-il possible de faire émerger les responsabilités? Les auteurs du rapport dressent une liste de 200 noms. Elle est confidentielle. Y aura-t-il un jour des procès pour ces crimes? Ce serait au Congo d'en décider, selon les rapporteurs. Mais l'ONU fera sûrement pression pour la création d'un tribunal ad hoc. L'ONU, dont les responsabilités en creux dans ces massacres, ne sont même pas évoquées. Enfin, n'oublions pas que ce chapitre de l'histoire récente de la région des Grands Lacs s'écrit encore aujourd'hui. Au mois d'août, 314 femmes ont été violées en 4 jours dans le Kivu. Les Mai Mai et les FDLR seraient en cause. L'ONU enquête sur place.
Ajoutons, Lord de Villepian, que d'ores et déjà, avant même que ce document soit publié, Kigali le qualifie de mauvais, dangereux et d'insulte à l'histoire. Le groupe pétrolier britannique BP annonce ce matin qu'en raison de la marée noire du golfe du Mexique, il a dépensé jusqu'à 11,2 milliards de dollars, soit 1 milliard de plus de ce qu'il annonçait il y a 2 semaines. Cet argent a servi à contenir et nettoyer le pétrole, le forage de puits de secours et les sommes versées aux États riverains et aux autorités fédérales, ainsi que les indemnisations aux particuliers. Cette annonce intervient le jour où le nouveau directeur général de BP, l'américain Bob Dudley, prend officiellement ses fonctions aujourd'hui au siège londonien du groupe. Élection présidentielle ce dimanche au Brésil. Tous les sondages donnent la victoire au premier tour de Dilma Rousseff. La candidate du Parti des travailleurs bénéficie non seulement de la popularité du président Lula, de ses résultats positifs pendant les 8 années de son pouvoir, mais également de son implication personnelle dans la campagne électorale. Notre invité est à Sao Paulo. Il est philosophe, politologue, José Arthur Gianotti. Bonjour Monsieur Gianotti, alors les jeux sont faits quasiment?
Oui, je crois que c'est impossible maintenant d'un tournement que l'opposition puisse vaincre. L'hégémonie de Lula est totale.
Comment l'expliquez-vous?
Alors, il est vraiment un génie de la communication. Et puis il a une situation très favorable du point de vue économique. D'abord, il a suivi d'une façon très intelligente tout ce que le gouvernement antérieur avait déjà installé. Et puis il y a ce phénomène qui surprend le monde, qui est la Chine, n'est-ce pas? Sans la Chine, la situation de l'Amérique latine serait tout à fait différente.
Vous ne pensez pas que le président Lula peut aussi présenter un bilan positif de son action, que ce soit en matière de lutte contre la faim ou contre le chômage?
Non, je crois que le bilan du gouvernement est très positif. D'abord, il y a une lutte contre la famine, il y a une lutte, vraiment une absorption de la population au marché. Mais ce que j'ai peur, c'est justement que les institutions démocratiques, elles sont fébriles, c'est-à-dire le gouvernement ici introduit tout le temps.
Est-ce que le principal adversaire de Madame Rousseff, le social-démocrate José Serra, ancien gouverneur de Sao Paulo, est-ce qu'il faisait des contre-propositions?
Non, c'est justement ça. Si d'un côté Lula a fait de la politique tout le temps, l'opposition n'a pas fait de la politique. Elle n'a pas su s'organiser pour montrer qui, du côté de Lula, il y a une conception de l'État qui est très, très puissante et très propriétaire. C'est-à-dire, il revient à l'État des années 80 et l'opposition n'a pas su montrer que l'État qui était en train de se mettre à jour dans les années de Fernandéricchi était vraiment une autre conception plutôt démocratique, une conception régulatrice de l'État. Un État qui soit fort, qui soit pas du tout un État qui soit un néolibéral, mais qui ne soit pas propriétaire. Parce qu'un État propriétaire, on sait bien ce qui se passe. La corruption augmente. Là, chaque jour, il y a des dénonciations d'un côté corruption du gouvernement Lula.
Il y a quand même une femme qui monte un peu, la candidate des Verts. L'ex-ministre de l'Environnement, Marina Silva, elle semble être portée par les jeunes.
Oui, elle est portée par les jeunes. C'est une femme très intelligente, mais elle est très en arrière aux autres côtés de la société brésilienne. Par exemple, toute la question biologique du transgène, la question de l'avortement. Elle est très en retard de ce que se pense au Brésil maintenant. Elle a une présence publique bien plus forte que Dilma, Elle n'existe pas pour le point de vue politique. Elle n'est que, comme les gens disent ici, c'est la femme de Lula. Elle n'est qu'une projection de Lula.
Est-ce que vous pensez que Dilma Rousseff peut passer dès le premier tour?
Ah, je crois que oui. Maintenant, elle passe au premier tour. Je crois que justement, comme Dilma n'est pas Lula, elle est très autoritaire. Donc, on ne sait pas exactement comment elle pourrait digérer toutes les pulsions de la politique. Parce que Lula a une capacité extraordinaire de digérer les crises. Quand une crise arrive au palais d'Alvorada, elle sort bien plus petite. On ne sait pas comment Dilma va s'arranger pour dévorer ces crises qui sont permanentes au Brésil.
Eh bien, je vous remercie, Monsieur Jeannotti.
C'est moi que je remercie.
Et en raison de ces élections de dimanche, le président brésilien ne s'est pas rendu la nuit dernière à Buenos Aires où se tenait une réunion consacrée à la situation en Équateur, où le président Rafael Correa a dû dans l'après-midi et dans la soirée faire face à une rébellion de policiers. Donc tous les représentants de l'Union des Nations Sud-Américaines, l'UNASUR, c'est-à-dire du Pérou à l'Uruguay en passant par le Venezuela, le Chili, la Colombie, la Bolivie et bien sûr l'Argentine qui organisaient cette réunion, ont apporté leur soutien au président équatorien. Rafael Correa a accusé les policiers mutins d'avoir voulu l'assassiner dans l'hôpital où il a été séquestré pendant une douzaine d'heures. Puis les militaires et les policiers fidèles au gouvernement l'ont sauvé. Mais cette opération a fait 2 morts et 37 blessés. C'est en présence de plusieurs chefs d'État africains que s'est déroulé ce matin un défilé militaire à Abuja, cérémonie pour marquer le 50e anniversaire de l'indépendance du Nigeria. C'est l'occasion de se pencher sur ce pays, 8e exportateur mondial de pétrole, mais qui est gangréné par la corruption et par des conflits ethniques et religieux. Je vous propose d'écouter le reportage de Julie Vandal à Lagos, capitale économique du Nigeria.
C'était le 1er octobre 1960. L'Union Jack était descendue, remplacée par le drapeau nigérian. Un grand moment d'histoire dont Tony Okonkwo se souvient bien.
J'étais un jeune garçon quand on a célébré la première indépendance en 1960. Vous savez, je levais le drapeau, j'étais tellement heureux. Mais je dois dire que je n'ai pas vu beaucoup d'évolution. À l'époque, les gens ne souffraient pas autant qu'aujourd'hui.
Pour ce consultant en ressources humaines, comme pour les quelques 150 millions de Nigérians, le constat est souvent amer. 8e exportateur mondial de brut, l'ex-colonie britannique est depuis 50 ans régulièrement secouée par des violences ethniques et religieuses. Quant aux milliards de pétrodollars, ils ne profitent surtout qu'à une élite politique rongée par la corruption. Et ce n'est pas Femi Kuti, le chantre de l'afrobeat moderne, qui dira le contraire.
Il n'y a rien à faire. On n'a rien de tout ce pourquoi mon père se battait quand j'étais jeune. L'électricité, de bons soins de santé, un enseignement pour tous. Le Nigeria, un riche pays pétrolier, on devrait avoir honte. Maintenant, je pense que c'est embarrassant pour les membres du gouvernement d'être à la tête de ce pays et aussi corrompu.
Certes, c'est une réalité, concède Ishola Williams, directeur du PANAFSTRAG, un institut de recherche politique. Ce général à la retraite se veut pourtant optimiste.
Beaucoup d'argent a été volé, mais une partie a aussi été utilisé pour le développement. Regardez le nombre d'universités que nous avons. Quel autre pays d'Afrique de l'Ouest peut se targuer d'en avoir autant de qualité? Quand vous venez à Lagos, vous vous demandez, c'est ça un pays pauvre? Donc toute cette situation vous dit que oui, malheureusement, de l'argent a été gaspillé et que nous aurions pu faire beaucoup mieux. Il nous faut une nouvelle classe de dirigeants politiquement matures et sérieux.
Un changement qu'appelle toute une jeune génération de Nigérians qui demandent désormais des comptes à leurs dirigeants.
Le temps de cet après-midi pour refermer ce journal, de la grisaille pour tout le monde qui va progressivement se transformer en pluie sur quasiment toutes les régions. Les températures varieront de 16 à 19 degrés sur la moitié nord et de 19 à 22 au sud. Les prochaines informations vous seront proposées à 18h par Florence Thur. Merci de votre attention. Nous retrouvons tout de suite Caroline Brouet et Hervé Gardette pour la Grande Table.
Merci.
France Culture présente La Compagnie des Spectres, de et avec Zabou Bretman, d'après le roman de Lydie Salver. Un huissier vient saisir les meubles de l'appartement de Louisiane et de sa mère Rose. Une irruption qui réveille les angoisses, la haine et la folie de Rose, dont la vie s'est arrêtée en 1943, le jour de l'arrestation de son frère de 18 ans. La Compagnie des Spectres, au Montfort jusqu'au 31 octobre. Un spectacle France Culture. Now.
Et c'est la deuxième partie de La Grande Table sur France Culture. Merci à celles et ceux qui viennent de nous rejoindre, à ceux qui nous écoutent depuis midi. Une deuxième partie, vous savez, faite d'échanges, et aujourd'hui, d'échanges autour d'un thème.
Oui, il y a quelques semaines, nous avions invité autour de cette table la romancière Nathalie Kuperman, le cinéaste Mathias Gokalp et le dramaturge Michel Vinaver pour parler du monde du travail à travers leurs œuvres respectives. Nous avions remarqué que depuis quelques années, les créateurs étaient nombreux qui prenaient ce sujet à bras-le-corps pour en faire une matière artistique et que cette rentrée culturelle n'était pas en reste devant la multiplication des œuvres culturelles qui dissèquent le monde de l'entreprise, eh bien nous avons eu envie de faire une deuxième émission sur ce thème. Même dispositif, ils sont trois, même répartition, une metteuse en scène, une cinéaste, un écrivain, mais un déplacement de la problématique, car si Nathalie Kuperman, Mathias Gokalp et Michel Vinaver nous parlaient plutôt des cadres, nos trois invités aujourd'hui semblent s'intéresser davantage au monde des petits employés, avec cependant un même constat, le monde de l'entreprise n'est pas précisément un lieu d'épanouissement. Faut-il désespérer de cet univers ou peut-on malgré tout recréer une forme d'espérance? C'est ce que nous allons voir avec eux.
Et nous allons le voir avec Zabou Bretman, comédienne, cinéaste. Vous mettez en scène en ce moment une pièce que vous avez adaptée d'un roman de Lydie Salver, La Médaille, au Théâtre du Rond-Point à Paris. Vous mettez également aussi en scène La Compagnie des Spectres au Théâtre Sylvia Montfort. On vient de l'entendre dans la promotion juste avant cette émission. Avec nous également Thierry Bestingel, romancier. Vous êtes par ailleurs conseiller en recrutement pour une grande entreprise de télécommunication que nous pouvons même appeler France Télécom. Information importante quand on lit votre dernier roman, Retour aux mots sauvages, publié chez Fayard. Et puis Mariana Otero, cinéaste, auteur d'un documentaire qui sort mercredi prochain sur les écrans. Ça s'appelle Entre nos mains et c'est l'histoire de la tentative de prise en main d'une entreprise de lingerie par les salariés. Bonjour à vous trois.
Bonjour.
Bonjour.
Alors Thierry Bestingel, vous préparez une thèse sur le monde du travail, c'est ce qu'on a appris en préparant cette émission, une thèse sur le monde du travail dans la littérature contemporaine de ces 30 dernières années. D'abord, quelles évolutions avez-vous notées en 30 ans ?
Alors déjà, cette période de 30 ans, ça veut dire qu'on se déplace de mai 68, on va dire, en gros, jusqu'à l'époque actuelle. Donc c'est une période qui est forcément intéressante parce que c'est à ce moment-là que la société au travail a fortement évolué suite aux accords de Grenelle et à tout ce qui s'en est suivi. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'on peut remarquer à la limite trois phases. Une première phase qui est dans la continuité de mai 68 avec par exemple les établis comme Robert Linhart ou Leslie Kaplan donc, qui ont écrit sur ces établis qui travaillaient dans les usines. Il y a aussi François Bon qui a écrit un livre comme Sortie d'usine. Donc c'est à peu près une sorte de renouveau, mais qui restait relié, on va dire, à la littérature prolétarienne. Ça, c'est la première phase. La deuxième phase, alors là, c'était un désert au point de vue fiction. Dans ce désert, on y trouve La Médaille de Lydie Salver. On y trouve
1993.
Aussi, voilà, 1993. On y trouve aussi, à ce moment-là, un certain Michel Houellebecq qui faisait parler de lui avec Extension du domaine de la lutte. On y trouve aussi, à cette époque-là, Pierre Bourdieu, qui publie La misère du monde, donc à ce moment-là, qu'on peut lire d'ailleurs quasiment presque comme un roman. Donc, on est dans l'époque, on va dire, de la gauche au pouvoir, et donc je pense que c'est. On a beaucoup plus déplacé le terrain, non pas sur la fiction, mais plus sur la sociologie ou sur les essais. Et puis, à partir de 2000, on voit un renouveau de la fiction qui n'a cessé depuis de se développer. Alors, ce renouveau, en réalité, fait suite à un certain nombre de changements dans la vie professionnelle, notamment à des changements qui apparaissent peut-être peu dans les fictions, mais l'informatique qui a changé carrément les méthodes de travail, le fait, donc justement, cette mondialisation derrière qui en a découlé. Et donc, depuis, chaque année, c'est des dizaines et des dizaines de livres qui paraissent sur le sujet, et ce sont des fictions.
Alors, est-ce qu'on peut dire aussi, par rapport à cette période des années 2000, qui est dans laquelle on entend aussi beaucoup l'idée qu'il faut réhabiliter l'entreprise. Est-ce que l'intérêt que peuvent avoir les artistes, les romanciers notamment, pour ce monde du travail est lié à cette volonté de remettre l'entreprise, c'est ce que disent un petit peu nos dirigeants actuels, au centre de la société?
En fait, l'entreprise, quand on regarde, elle est vraiment au centre de la société, au centre de tous les débats. Il suffit de voir le débat des retraites, il suffit de voir le débat des 35 heures. Donc, elle y est de facto. Donc, les romanciers, eux, ont une porte d'entrée qui est formidable, finalement, parce que tout le monde s'intéresse au travail. Et donc, derrière, dans cette sorte de dématérialisation, puisqu'il y a une véritable dématérialisation du travail, on ne sait pas trop où ça commence, on ne sait pas trop les gestes dans leur réalité. On sait seulement cerner le travail à travers des bornes. Les bornes étant la retraite, par exemple, à 60, 62 ans, on préfère tous apparemment 60, ou alors les 35 heures. Donc on est finalement dans une sorte de fantasme du travail qu'on ne sait pas expliquer. Ce fantasme conduit à la fiction, finalement, et quoi de plus beau, évidemment, pour un écrivain de pouvoir s'engager dans ce monde un peu fantasmé, avec des personnages que tout le monde reconnaît très facilement. Le chef pervers, la collègue sympa, etc. Et donc, on a une gamme de personnages qu'on va pouvoir, en quelque sorte, mettre en scène.
Chers amis, nous souhaitons que votre usine soit le lieu de votre épanouissement. Le terreau fertile sur lequel vos capacités créatrices pourront surgir, croître et prospérer. Le grand poète du peuple l'a écrit, l'usine est l'avenir de l'homme. Il faut nous en réjouir. Notre devoir à tous, comme aimait à le dire notre regretté Charles Buisson, est d'être en train pour le turbin. Monsieur Prott, le directeur des relations humaines, et notre bien-aimé président, monsieur René Buisson, le père de mademoiselle Buisson, nous prient de les excuser de leur absence. Ils sont actuellement à l'étranger, où ils négocient la délocalisation d'une partie de l'entreprise, laquelle vient s'inscrire dans notre nouvelle politique de partenariat. Ne vous inquiétez pas de cette délocalisation. Des questionnaires vous seront distribués où vous pourrez cocher votre destination préférée. La Pologne ou la Roumanie, vous avez le choix.
Sabo Bretman, c'est le début de la pièce, la médaille qu'on vient d'entendre. Le directeur des ressources humaines fait le discours d'accueil. La médaille se passe au cœur d'une usine automobile lors de la cérémonie de la remise des médailles aux meilleurs travailleurs. Il y a là le directeur des ressources humaines, donc la directrice de l'action sociale et de la communication, le directeur en sciences sociales, la secrétaire, le directeur de la sécurité qui jouera un rôle très important au cours de la pièce, et puis les trois médaillés à qui donc on remet cette médaille d'or. On entend les rires déjà dans la salle parce que c'est une pièce d'une ironie mordante qui est au départ un roman donc de Lydie Salvert qui date de 1993 que vous avez adapté pour le théâtre.
Oui, alors c'est un roman qui a cette particularité que les personnages adressent des allocutions. Donc c'est une forme de roman une forme particulière de roman puisque c'est écrit comme vraiment des allocutions. Donc l'idée du micro et de l'allocution, je me suis dit faut aller au bout et l'assumer complètement. Alors oui, c'est intéressant d'ailleurs qu'on entende des rires et effectivement c'est le début parce que je pense qu'il y a au départ, on se dit ah, ça va être effectivement de la caricature, donc on se dit, ah bon, c'est ce niveau-là de rire, c'est ce niveau-là de distance, on est à cette distance de ce qu'on va voir, donc les gens ont envie, il est drôle, ils sont drôles, physiquement ils sont intéressants, ils sont tous très très différents.
Les personnages sont très campés.
Très
dans
campés,
leur rôle.
Les comédiens sont drôles et très justes et très bons, je trouve. Mais, en fait, quand ça continue, on est plus sûr exactement de la distance à laquelle on doit se trouver par rapport à ce qu'on entend. Et donc ça, c'est très intéressant parce qu'il y a tout à coup des petits moments de froid glacial qui traversent la salle. Parce qu'on ne sait plus, vous savez comme on est maître manichéen, hein, il faut qu'il y ait les gentils et les méchants quand même un petit peu, encore plus évidemment au spectacle, il faut qu'on voit qui est gentil et qui est méchant. Et là, on se dit, bon, lui, c'est un méchant, ça va. Et puis alors après, il y a un gentil, donc un ouvrier qui reçoit une médaille, qui est formidable, mais qui est tout à coup aussi, qui dit des choses qui sont absolument effrayantes. C'est-à-dire que de victime, il passe aussi parfois à bourreau. Et là, on a un petit peu plus de mal.
Eh bien, on l'écoute, cet ouvrier.
On m'a nommé à un poste de nuit, dans la fosse. J'étais seul à mon poste. La chaîne tournait à fond. La voiture avançait, j'étais dessous, dans la fosse. Je levais le bras gauche, vite, je plaquais la gamelle sur le châssis, et vite, pour protéger les amarrages des barres de torsion, de la main droite, je plaçais la vis dans l'embout, puis je levais la chignole, et hop, je vissais. Souvent, je ratais mon coup. La gamelle tombait, j'avais perdu mes vis, j'ai cherché à tâtons sur le rebord du trou, au-dessus de ma tête, une nouvelle voiture arrivait, je m'affolais, les embouteillages se formaient à l'avant comme à l'arrière, j'entendais les mecs qui râlaient, le chef d'équipe me regardait comme si j'étais le dernier des débiles. Quand la sirène sonnait, je n'avais pas fixé les deux tiers des gamelles. Je coulais un cauchemar. Le bruit était épouvantable. Il faisait nuit quand je rentrais, il faisait nuit quand je sortais, il faisait nuit tout le temps. Dehors et dans ma tête. Le soleil me manquait à me rendre fou. Et quand je dis fou, je dis fou. À la maison, j'exigeais le silence total. J'avais les nerfs à vif. Le moindre bruit me mettait hors de moi. Les cris de mes enfants me donnaient des fureurs. Je les frappais, c'était mon seul délassement dans cette vie abominable. Quelques coups de ceinture du côté de la boucle et je me sentais beaucoup mieux. Certains jours bénis, le seul fait de dégrafer ma ceinture et de lire la peur dans les yeux des enfants suffisait à me soulager, d'autant que mes bras me faisaient horriblement souffrir et que chaque mouvement augmentait ma souffrance à force de ressasser le même geste toute la nuit. J'avais les mains tout engourdies et les aisselles en feu. Je me tenais les bras écartés, comme un pingouin.
Voilà, celui qu'on vient d'entendre, c'est Auguste, ouvrier qui reçoit sa médaille d'or, joué excellemment, effectivement, par Jean-Claude Frissung. J'espère que je n'écorche pas son nom. Il dit aussi, lui, j'étais dominé par... Il raconte sa vie dans cette entreprise et puis aussi un petit peu en dehors. Il dit, j'étais dominé par ma femme, mon contremaître, ma machine. Je ne contrôlais plus ma vie. C'est extrêmement douloureux aussi, lui, son expérience du travail. Et c'est ce qui explique le fait qu'il... À un moment donné, il devient violent aussi chez lui.
Ah ben oui, il y en a eu beaucoup. D'ailleurs, on en connaît des cas de gens qui pètent un plomb parce que le bruit rend fou, parce qu'ils sont dans le noir, parce que il dit je travaillais dans une fosse comme les esclaves du temps jadis et en France au XXe siècle. Mais c'est vrai que
en même temps, il se révolte pas, hein, parce qu'il dit,
alors lui non,
moi, j'ai jamais fait la grève.
Lui, c'est un qui ne se révolte pas. C'est ça. Le chaos va arriver de l'autre côté. Là, il y a l'usine entièrement qui va être occupée. Et ça fait un petit peu. C'est vrai que ça.
Avec les ouvriers qui se rebellent.
Ah oui, là c'est là. C'est là.
Mais lui, non, il va rester tranquille. Il dit même à un moment donné, vaut mieux se rouler dans la merde que dans les illusions. La merde, au moins, ça se nettoie. C'est après avoir expliqué que justement, il n'avait jamais été gréviste de sa vie.
Mais parce que c'est extrêmement compliqué. Évidemment, ça paraît toujours très simple de dire vous avez qu'à vous. C'est extrêmement violent. D'abord, il y a une sécurité. On se dit, mais je ne peux pas faire ça, sinon je n'aurai plus pour nourrir ma famille. Il ne s'agit pas d'être complice, il ne s'agit pas d'être... Mais il faut juste un tout petit peu comprendre la difficulté de vie qu'ils ont sur les épaules, quoi. Donc, enfin, qu'ils ont, que beaucoup de gens, qu'une majorité de gens, enfin, c'est une majorité de gens quand même qui subit le travail plus que qu'il l'aime et qui le fait avec joie et avec plaisir, comme sur certaines affiches de famille, travail et patrie.
Thierry Bestingel, on retrouve cette domination du travail et cette souffrance au travail dans Retour au mot sauvage, qui est un très beau titre.
Hein, ouais, très
dommage
beau
que je l'écorche, c'est un très beau titre. Votre roman publié chez Fayard, à cette différence près que votre personnage est un électricien, qu'il ne souffrait pas des mains, ce dont il souffre dans son nouveau métier, puisqu'il arrive dans un centre d'appel téléphonique, c'est finalement d'avoir perdu l'usage de ses mains. Là où l'ouvrier de la médaille exprime sa douleur, la douleur dans les bras, la douleur dans les mains, votre personnage, Eric, le nouveau, hein, dans le roman, dit que lui, finalement, il regrette presque ses mains, quoi.
Voilà, tout à fait. Et c'est en fait ce qui change entre l'époque de la médaille, donc en 93, où c'était encore l'époque des gestes et des ouvriers. Enfin, je ne veux pas dire du tout que les ouvriers n'existent plus, bien au contraire. Par contre, comme on a changé leur appellation, ce sont des opérateurs de saisie, ce sont des opérateurs, etc. Donc on a l'impression que les ouvriers n'existent plus. Donc pour en revenir à mon téléopérateur, en réalité maintenant, la plupart des entreprises se sont diversifiées plutôt dans les services. On produit maintenant en Chine ou on produit en Roumanie ou en Pologne. Maintenant, on travaille plutôt avec les mots, donc dans des entreprises de service. Donc, on arrive insidieusement à créer des nouveaux métiers, comme le métier de téléopérateur, qui existe depuis les années 2001-2002, enfin du moins qui s'est véritablement... Qui a commencé à augmenter dans ces années-là.
C'est assez récent, quoi.
Voilà, c'est assez récent. Je crois qu'il y en a environ 200 000, un peu plus de 200 000 qui travaillent en France, donc ce qui est quand même énorme. Et leur matière à eux, leur geste à eux, c'est de travailler avec les mots et de donner les mots les plus standardisés possibles à des clients de la façon la plus froide possible. Pour vendre des produits, des services, acheter des voyages, enfin tout ce qu'on connaît avec le monde des téléopérateurs.
À tel point d'ailleurs que certains téléopérateurs arrivent à penser à autre chose, voire à faire des sudokus pendant qu'ils sont en train de parler à leurs clients. C'est-à-dire que c'est tellement une conversation tellement formatée qu'on peut s'en extraire et être complètement extérieur à ce qu'on est en train de dire.
Voilà, en fait, on retrouve toutes les dérives du taylorisme, les dérives qui avaient été constatées, du moins qui n'avaient pas été prévues par ceux qui avaient pensé le taylorisme. C'est-à-dire que l'esprit, lui, quand on essaie de lui imposer des choses qui sont trop normées, il essaie de s'évader, il essaie de trouver autre chose, un dérivatif. Et c'est notre capacité de créativité qui finalement revient au grand jour, alors que l'entreprise, par sa fonction, pour éviter que les gens soient particulièrement assidus à leur tâche, elle essaie justement de réduire cette créativité au maximum. Mais bon, manque de bol, on est des êtres humains, on pense tous, et puis on a ce petit poids qui se trimballe dans la tête et qui nous fait partir un peu partout.
Je voulais juste dire une petite chose, parce que je n'ai pas tout fini, malheureusement, mais ce livre, et bon, je finis après, c'est promis, parce que de toute façon, c'est une merveille. Non, mais c'est formidable. D'abord, je vais vous dire, comme comédienne, il y a des trucs, quand on lit, mais je me régalais, quoi. Quand il part dans la boulangerie, le moment de la boulangerie où il imagine comment la boulangère va lui parler des croissants et la façon dont elle va formater la demande de juste d'une baguette et de croissants, quoi. Et c'est à mourir de rire.
Vous venez nous donner une très mauvaise idée, Zabou Bretman, mais puisque vous avez dit que c'était un texte intéressant à lire pour une quotidienne, alors c'est pas la scène de la boulangerie, mais alors on va vous laisser le temps peut-être d'y jeter un petit un œil à cette scène qu'on avait retenue, qui nous semblait assez emblématique de ce qu'est le
peut-être
livre
on présente cette scène avec Thierry Bestingel le temps que Zabou Bretman comprenne et lise le texte. C'est que la façon dont Eric arrive à trouver une porte de sortie, Eric, votre personnage, c'est à la fois par la course à pied et par l'écriture, donc par les mots. Il cherche à se réapproprier le langage. Peut-être que c'est ça qui explique le titre, Retour aux mots sauvages. C'est-à-dire que pour vous, le langage formaté, déshumanisé de l'entreprise est à l'opposé de notre langue maternelle. Et ce que cherche à faire Eric, c'est qu'il est un taiseux, et sa façon de résister, c'est de tout noter, de tout consigner dans des carnets, de travailler sur la langue.
Oui, tout à fait. Et donc c'est vrai, c'est un taiseux, donc il ne parle pas beaucoup. Et donc la course à pied, ça lui donne en plus, en quelque sorte, le pouvoir de se réapproprier non pas des mots, mais une certaine respiration qui va lui servir à fabriquer en quelque sorte des mots. Et l'écriture aussi lui permet de toutes les paroles qu'il ne dit pas, de pouvoir les consigner en quelque sorte par écrit. Donc c'est vrai qu'on a toujours des tas de dérivatifs pour essayer de retrouver cette créativité.
Voilà, donc ça, c'est ce que vous écrivez, notamment dans ce livre. Alors donc, en exclusivité mondiale, une lecture de Thierry Bestingel par Zabou Bretman.
Oui, puis là, il a un vocabulaire... il y a une écriture, ça se travaille, vous savez. il dit... Alors ça, c'est après... Il y a eu l'histoire de la boulangerie. Moi, j'adore l'histoire de la boulangerie. Enfin bon. Et donc, on reparle un peu, vous reparlez là de ce moment, toute cette dissimulation, hypocrisie, duplicité est provoquée par ces séries de dialogues improbables et normés, soumis à l'aléatoire d'un logiciel qui décide pour vous des mots à dire. Est ainsi tronquée la perception d'une vraie vie. Un peu comme si la boulangère tendait un hologramme de baguette à une voix synthétique dans une boutique qui n'existerait pas. et que cela finit par vous taper sur le système à force de pas d'existence tangible, palpable, concrète, physique, matérielle, authentique, véritable, sûre, sincère, loyale, fidèle, convenable, apparente et manifeste. Dire tous ces adjectifs fait du bien. Il ne répond pas au chef, il hausse les épaules, ses mains blanches et rétrécies tiennent la feuille mal imprimée, ses mains blanches, celle qui tenait il n'y a pas si longtemps la réalité d'un tournevis, d'une pince, d'un râpeur, pour des gestes utiles, précis, visibles, perceptibles, ostensibles.
Dire tous ces adjectifs lui fait du bien, Thierry Bestingel. C'est une forme de reprise en main par le langage.
Oui, donc ce langage qui lui a été imposé par son entreprise est évidemment très pauvre. Ce sont des mots qui sont normés et qu'il n'a pas décidé. Et évidemment, pour un écrivain, donc avec la richesse de la littérature française, donc par exemple avec les, j'ai mis en début du livre une citation de Proust qui est très très riche, qui concerne les demoiselles du téléphone, avec énormément d'adjectifs. Et je voulais retrouver aussi, à un moment donné, cette richesse, parce que ce sont pas des mots qu'on, tous les adjectifs que j'ai cités, ce sont pas des mots qu'on utilise dans l'entreprise. Mais par contre, on les a tous en tête, on les a tous dans notre culture. Donc je fais une différence entre cette langue qui nous est imposée, cette langue d'entreprise, et puis notre langue maternelle que nous avons tous appris.
Alors voilà. Cette forme de reprise en main, c'est une porte de sortie pour votre personnage qui finit quand même par dire tout ce qu'il a subi, tout ce qu'on nous apprend, la compétition, l'identité, l'individu et sa place à gagner dans le vaste monde, le monde. Faire avec, vivre autour, s'abandonner aux mots sauvages. Cette porte de sortie par l'écriture et par la course à pied nous permet de faire la transition avec votre film « Entre nos mains », Mariana Otero, parce que d'une certaine façon, là aussi, vous avez le point de vue des employés, des ouvriers au cadre, là tout le monde y passe dans l'entreprise, mais on sent une pointe d'espérance. Car au milieu de cette désespérance, qu'elle soit traitée sous un mode ironique ou dramatique, la question que posent en creux vos trois œuvres, c'est quand même à chaque fois comment recréer de l'utopie, comment recréer du collectif d'une certaine façon. Et c'est au cœur d'Entre nos mains.
Oui, voilà, dans Entre nos mains, donc, ce sont des salariés qui décident, suite à la faillite de leur entreprise, de racheter le capital et de transformer leur entreprise en coopérative. J'ai voulu faire ce film parce que ce que j'ai constaté, c'est que dans les coopératives, les salariés sont heureux. Quand vous parliez de celui qui rentrait chez lui et qui devenait violent, enfin ce personnage-là, moi j'ai rencontré des salariés dans les coopératives qui me disaient que non seulement ils étaient heureux d'aller travailler, ils y allaient comme ils allaient dans leur jardin, et que même avec leurs femmes, ils étaient plus heureux. C'est-à-dire que ça change tout, quoi. Ils se réapproprient le monde et ils se réapproprient leur entreprise. Ils sont heureux à la fois au travail et à l'extérieur. Donc c'est vraiment ça qui m'intéressait de filmer dans la coopérative et dans cette entreprise et de filmer surtout le passage d'un ancien modèle à un nouveau modèle. Et quand vous disiez que c'est pas facile de se révolter, effectivement là ce qu'on voit au départ, c'est que c'est pas facile de tout d'un coup de changer tout, de bouleverser les règles, de changer 30 ans d'habitude de travail.
Ni de passer de l'autoritarisme à la démocratie, d'une certaine façon.
Et puis de ne plus être un exécutant, mais tout d'un coup de se dire « je vais être dirigeant moi aussi ». Et c'est ça que le film raconte.
Oui, moi c'est vraiment ce qui m'a frappé dans votre documentaire, c'est cette dimension-là. À la fois la peur d'un déclassement du côté du patron et des cadres, qui se disent finalement on va se retrouver, si ce projet de coopérative aboutit, au même niveau que nos salariés. Et puis il y a aussi quand même cette crainte du surclassement, on pourrait peut-être appeler ça comme ça, des salariés qui, certaines disent, nous on n'y comprend rien, on n'est que des ouvrières, et il y a finalement une acceptation de son statut dans l'entreprise. On voit que c'est très compliqué à faire bouger ça.
Oui, au début, les salariés, effectivement, les ouvriers, enfin, c'est surtout des femmes, donc je dirais elles.
C'est une entreprise de lingerie féminine.
Oui, voilà. Oui. Elles n'ont pas du tout confiance en elles, ni confiance dans les autres. C'est-à-dire, elles se disent, nous, on n'est absolument pas capables de faire ça. Et puis, en plus, elles ne sont pas spécialement politisées, elles n'ont pas de discours a priori là-dessus.
Elles non plus ne se sont jamais mises en grève.
Elles ne se sont jamais mises en grève, elles ne sont pas syndiquées. Et c'est en faisant ce chemin, donc cette aventure, en vivant cette aventure de la transformation en coopérative, que petit à petit, elles comprennent que finalement, oui, elles sont capables.
Il y a même un fort degré de soumission pour l'une d'entre elles qui réfléchit, est-ce qu'elle va mettre ce mois de salaire au pot pour créer cette scope ou pas. Au début, elle n'est pas tout à fait sûre. Et puis après avoir discuté avec son mari, elle s'est dit d'accord, je vais donner parce qu'en fait, la prime que m'avait donnée l'entreprise, c'est normal que je la lui rende parce que l'entreprise m'a beaucoup donné. C'est quand même incroyable ce genre de discours.
Mariana Otero.
Oui, non, c'est sûr que c'est sûr qu'effectivement, il n'y a pas, comme elle n'a pas ce bagage, je dirais, idéologique ou d'une certaine idéologie, elle a l'autre, par contre, et effectivement, elle pense que c'est pas elle, que c'est pas. En même temps, je trouve que là, en disant ça, elle met en question complètement le fonctionnement actuel du capitalisme financier. Donc elle commence à faire de la politique, elle commence à penser. Politique.
Marianne Otero, ce qui est frappant dans votre film, c'est qu'il est construit comme un film à suspense, pour le dire.
Mais en fait, on peut dire suspense. Hein,
oui, bon, alors très bien. parce que jusqu'au bout, on ne sait pas ce que ça va donner. Et donc, ce qu'on suit, c'est le processus de mise en place de cette scope, hein, c'est-à-dire la société, ça y est, j'ai oublié, la société
coopérative de participation, enfin participative, parce qu'ils ont changé, en fait, c'était société coopérative de production, et puis ils ont enlevé production parce que...
Société coopérative et participative,
voilà,
maintenant,
voilà, avant c'était retrouvé. Production, parce que c'était plus, ça concernait plus le monde ouvrier, voilà, et maintenant il y a beaucoup de services, sociétés de services, justement, ils ont changé pour ça.
Quelle a été votre place de documentariste? On vous entend poser des questions, on ne vous voit jamais. Vous êtes à la fois très présente par vos questions et totalement en retrait du point de vue de la caméra. Parfois même, on a l'impression que vous avez réussi à prendre, à capter certaines scènes d'échange entre les salariés et entre les cadres, comme s'ils vous avaient totalement oublié, ce qui est assez génial.
Oui, en même temps, je pense qu'elles ne m'ont jamais oublié. Hein. C'est-à-dire que ce qui est important quand on fait un documentaire, c'est que les gens qu'on filme oublient la gêne qu'ils ont par rapport à la caméra, mais surtout qu'ils n'oublient pas qu'ils sont filmés. Et c'est ce qui donne, je pense, une grande qualité à ce qui se dit dans le film, c'est que, en fait, au fur et à mesure, à la fois qu'elles rentrent dans le projet coopératif, qu'elles se libèrent de leur statut antérieur et qu'elles s'émancipent d'une certaine façon, au fur et à mesure aussi, elles sont de plus en plus à l'aise face à la caméra et elles s'emparent de cet espace et elles jouent avec les mots. Donc là, je retrouve tout à fait ce que vous disiez sur l'importance du langage. Elles jouent avec les mots économiques, les mots qu'elles apprennent petit à petit. Elles ont énormément d'humour, elles ont une distance comme ça qui fait vraiment toute la saveur de ce film. C'est-à-dire c'est effectivement à la fois une aventure, hein, c'est avec des conflits, des obstacles, des moments difficiles, des moments d'enthousiasme. Et puis en même temps, c'est un jeu sur le langage et puis l'histoire de femmes qui se réapproprient le monde et puis aussi leur propre personne. Quoi.
Et qui sonne étrangement avec l'actualité, puisqu'on a appris il y a quelques jours la fin du blocage du siège du fabricant de lingerie Le Jabi à Rieux-la-Pape. Donc, vous voyez, c'est une autre forme, puisque là, c'est un peu plus d'espoir par rapport à un blocage qui est l'alternative, c'est le conflit. Hein. Là, on n'est pas dans le conflit.
Ouais, juste un mot, on ne vous voit pas dans le documentaire, mais Ariana Otero, il y a aussi un autre personnage qu'on ne voit jamais, c'est le patron. Est-ce que c'était une volonté scénaristique ou est-ce que c'est lui qui a simplement refusé d'apparaître?
Alors, le patron, au départ, il a bien voulu que je filme dans l'entreprise, mais et alors là, c'est aussi important parce que justement, on parlait des fictions dans l'entreprise. Il y a beaucoup de fictions dans l'entreprise, même dans le cinéma, mais c'est vrai qu'il y a très très peu de documentaires qui se tournent dans l'entreprise pour la bonne raison que aucun PDG n'accepte qu'une caméra rentre. Et ça, c'est quand même assez grave parce que effectivement, du coup, on fantasme, du coup, on peut pas réfléchir sur cette chose qui fasse. C'est là où la plupart du temps, la plupart des gens passent leur vie, quoi. Et on ne peut pas filmer dans les entreprises. Alors là, il a accepté, ce qui est quand même assez remarquable, en me disant, puisque moi, je ne veux pas rentrer dans la coopérative, je ne veux pas être filmé. Ce qui, moi, ne me gênait pas, puisque je voulais vraiment suivre cette aventure du point de vue des salariés, être vraiment avec elle et que les spectateurs soient avec elle. C'est pour ça qu'il n'y a pas de voix off, pas d'entretien, pas de... Bon. Et à un moment donné, il veut rentrer dans la coopérative. Il n'accepte pas, finalement... Que ça lui échappe, donc il vient mettre un souk, on va dire, dans cette entreprise qui commençait vraiment à bouger. Et il y a une scène où il était très important, où il a énormément parlé, je l'appelais la scène du patron, et il a accepté que je la filme, mais il ne m'a jamais donné l'autorisation d'utiliser son image. Ce qui, en fait, ne m'a pas gênée, parce qu'en fait, c'était très anecdotique ce qu'il disait dans cette scène. Ça le concernait lui, c'était son ego. Et à ce moment-là du film, on n'avait pas du tout envie d'entendre son point de vue à lui. Ce qui comptait, c'était vraiment ce que pensaient les salariés. Et donc, il est réduit à sa fonction et c'est mieux comme ça.
Entre nos mains, un film donc de Marianna Otero. Ça sera en salle mercredi prochain. La médaille au Théâtre du Rond-Point, mise en scène Zabou Breitman, c'est jusqu'au 9 octobre 2010. Et puis, je rappelle que vous mettez également en scène La Compagnie des Spectres, un autre texte de Lydie Salvert, jusqu'au 31 octobre. Vous avez un peu plus de temps au Théâtre Sylvia Montfort à Paris.
Paris. Et puis Retour aux mots sauvages de Thierry Bestingel, c'est paru aux éditions Fayard. Merci beaucoup à tous les trois.
Merci beaucoup.
Et j'ajoute un dernier petit mot encore à propos de l'actualité de Zabou Pretman. Vous serez l'invité de Radio Libre sur France Culture le samedi 9 octobre prochain. Ce sera à 15h30. Voilà, on termine cette émission d'une manière un petit peu différente d'habitude, puisque nous allons revenir sur la disparition hier de l'acteur américain Tony Curtis à l'âge de 85 ans. Antoine Guillot, bonjour.
Bonjour.
Il se trouve que vous aviez rencontré Tony Curtis en 2005 à l'occasion d'un festival et que vous aviez eu l'occasion de discuter un petit peu avec lui.
Oui, alors c'est très impressionnant quand on rencontre une star comme ça du cinéma américain dont on a vu les films depuis tout petit. On s'attend à ce qu'il raconte plutôt des anecdotes. Tout le monde lui demande qu'est-ce qui s'est passé avec Marilyn Monroe, etc. Et bien lui, c'est quelqu'un qui avait une capacité à théoriser son jeu, l'utilisation de l'ironie dans son jeu. Et ça pouvait arriver au détour d'une conversation sur Stanley Kubrick, pour qu'il avait joué dans Spartacus, un des films dont il était le plus fier. Et surtout, quand il disait son admiration pour Cary Grant, celui qui lui avait donné sa vocation de comédien et avec qui il avait eu la chance de jouer dans Opération Jupon, un excellent film de Black Edwards. La traduction est d'Agnès de Barge.
Tell me something. Why did you join the Navy? Because I needed an officer's uniform. As a kid, I was victim of the most vicious propaganda ever. People kept telling me that money wasn't everything, and I believed it. Until I found out that the people who were saying that money wasn't everything were the people that had all the money. So I figured they were trying to hide a good thing. Mm-hmm. Sir, please sit down.
Yeah. When I first was a boy, I was 5-6.
Je devais avoir 5-6 ans à New York. Et c'était la dépression. Et le seul plaisir que j'avais, c'était d'aller au cinéma. Et Cary Grant était l'image, l'incarnation de l'homme qui me plaisait le plus. Et je me suis dit, je veux être comme lui. Et lui, il a apprécié cela. Lorsque nous nous sommes rencontrés et que nous sommes devenus amis, j'étais privilégié de devenir son ami. À chaque fois que je faisais quelque chose, je le faisais, comment dire, dans le plus grand respect. Je ne me suis jamais moqué de lui. Beaucoup de personnes se moquent de ceux qu'ils imitent ou qu'ils jouent. Je ne l'ai jamais fait pour Cary. Et il a admiré ça dans Opération Jupon, où nous avons joué ensemble. C'était fabuleux de pouvoir s'imaginer que j'allais jouer des scènes avec Cary Grant. Il était assis face à moi, tout comme vous, là, et on pouvait se parler. C'était une expérience extraordinaire. Et c'était comme ça à l'époque. Et rien n'a changé. Et on connaît tous des acteurs pour qui c'est important d'être comme ça, de se jouer. Et ensuite, je l'ai fait dans certains lame shows. Je devais faire une impression de lui. Billy Wilder a montré certains lame shows à Cary Grant et il lui a dit qu'est-ce que tu penses de l'impression que Tony donne de toi? Et Cary a dit, mais moi je ne parle pas comme ça.
Haven't I seen you somewhere before?
Not very likely.
You staying at the hotel?
Not at all.
Your face is familiar.
Possible you've seen it in the newspapers or magazines, Vanity Fair.
That must be it.
Would you mind moving just a little, please? You're blocking my view.
Your view of what?
They run up a red and white flag on the yacht when it's time for cocktails.
You own a yacht? Which one is it? The big one?
Certainly not. With all the unrest in the world, I don't think anybody should have a yacht that sleeps more than 12.
I quite agree. Tell me, who runs up that flag? Your wife?
No, my flags do it.
Who mixes the cocktails? Your wife?
Nous avions une excellente relation avec Kubrick parce qu'on allait au-delà de ce que nous étions. Pour tout le monde, c'était le réalisateur. Et pour tout le monde, j'étais l'acteur. Mais lorsqu'on se regardait, on voyait deux gars de New York qui pouvaient communiquer leurs souhaits et leur être. On était sur la même longueur d'onde. Et travailler avec Stanley était une expérience extraordinaire. Avec d'autres réalisateurs, je fais la même chose. Je ne joue pas. Je viens et je suis prêt. Je porte ce que je pense devoir porter. Je me concentre de façon à pouvoir faire partie du monde. Je fais partie du monde. Je ne me vois pas autrement. Et lorsque je joue un rôle, j'habite cette zone que j'ai créée. Il n'y a personne d'autre à cette place. Par conséquent, c'est moi la voix dans l'étrangleur de Boston. Et je suis Antoninus dans Spartacus, donc je deviens toutes ces personnes, tous ces personnages, grâce à mon imagination, grâce à mes costumes. Et si je me regarde dans le miroir, mon costume me dit « qui est là ?» Le miroir me dit ça. Personne d'autre ne me le dit. Mon cerveau ne me le dit pas. Mon imagination ne me le dit pas. Ce que cela me raconte, c'est ce que je vois devant moi. Nous ne croyons pas tout ce que nous entendons. Et on est presque obligé de croire tout ce que l'on voit. Seuls les magiciens arrivent à tromper notre regard. Donc, ceci étant posé, c'est mon explication de mon travail et de mon besoin d'un réalisateur, de l'aide qu'il peut m'apporter. Parce que le réalisateur peut être le miroir. Si je l'apprécie, ça devient un miroir très fort. Si je peux me fier à lui, je vais le respecter parce qu'il est réalisateur. Mais si je ne me sens pas à l'aise avec lui, ce n'est qu'un son face à moi. Il vient dans la salle et dit, regarde-la, tu es tombé amoureux d'elle la semaine dernière et puis voilà, maintenant c'est ça, cette relation avec elle. Je n'ai pas besoin qu'il me dise ça. Il doit juste entrer dans la salle. C'est moi qui décide l'attitude que je dois avoir. Et la vitesse, par exemple, à laquelle je marche. Je monte les escaliers vite, par exemple, ou je fais des pas rapidement. Et ma réplique est « À quelle heure seras-tu prêt ?» Si je le dis rapidement, « À quelle heure seras-tu prêt ?» C'est un sentiment différent que si je marche lentement et je dis « À quelle heure seras-tu prêt ?» Donc la lecture et la vitesse définissent le personnage. Ce n'est pas très difficile, mais il faut y réfléchir et beaucoup d'acteurs ne le font pas. Je ne sais pas pourquoi, mais ils n'intériorisent pas suffisamment. Ils écoutent tout ce qui se passe autour d'eux et ils prennent ce qu'ils croient devoir faire. Mais en fait, ce n'est pas comme ça.
Do you eat oysters?
When I have them, master.
Do you eat snails?
No, master.
Do you consider the eating of oysters to be moral and the eating of snails to be immoral?
No, master.
Of course not.
The irony, I like it.
L'ironie, oui, j'aime ça. Ability. Cette capacité à voir les particularités de la vie, les pièges de la vie. Se rendre compte que lorsque quelqu'un te sourit et te dit « je t'aime », tu dis « oh là là, attends ». Il faut l'accepter et on est aussi, aussi intelligent que la personne qui est face à nous. Et si on est tout le temps soupçonneux, on n'avance pas. Donc l'ironie, c'est être conscient de tout ce qui est autour de nous. C'est libérateur.
Freedom. Is the secret for the actor.
Et la liberté, c'est le secret de l'acteur.
Freedom.
La liberté.
Freedom disappears if the director
et elle disparaît si le réalisateur te dit, quand elle entre dans la salle, il faut lui dire cette réplique, « Ah, c'est elle, la fille que je vais rencontrer ?» Et vous dit, il faut prendre ce verre.
What it is.
C'est à vous de décider. Est-ce que c'est la fille que je veux rencontrer ? Pourquoi est-ce que je devrais boire un verre en plein milieu de la réplique ? C'est ça l'ironie pour moi. Pourquoi devons-nous faire certaines choses ? Est-ce que c'est la fille que je suis censé rencontrer ? Très bien. Donc, j'adoucis les choses et je ne veux pas savoir exactement ce que je suis en train de regarder. Et elle sait qu'elle va me rencontrer. Et je me dis, Ah, c'est elle, la fille que je vais rencontrer. Et ça, pour moi, c'est le secret de tout ça. Lorsque l'on rit, lorsque l'on est en colère, lorsqu'on passe un moment très subtil, fragile, frustrant, lorsqu'on ne se sent pas bien et qu'il faut jouer comme si on se sentait bien, c'est un ensemble d'attitudes qu'il faut adopter. Pour moi, ce n'est pas la méthode Stanislavski Brando qui a eu beaucoup de succès pendant tout un temps, parce que c'était prendre la pause, c'était présenter certaines parties de son corps selon l'angle que l'on croyait être le bon. Moi, je ne fais pas ça. Tout ce que je fais est différent. Dans les scènes, quelles que soient les répliques, je les lis différemment après chaque prise. Et j'essaye toujours de trouver autre chose, un autre ton. Et ce faisant, je mets toute mon énergie là-dedans, toutes mes tripes, et ça, c'est l'énergie qui émane de moi. Lorsqu'on le voit dans le film, c'est la première fois qu'elle apparaît, et vous allez le sentir en le voyant, même si j'ai répété 5 fois la réplique. Et au moment où on est prêt à tourner, eh bien, cela va arriver.
Well, here we are. Are you two from the Polyakov Agency?
C'était l'acteur américain Tony Curtis, entretien inédit réalisé par Antoine Guillot pour terminer cette grande table réalisée par Doria Zénine à la technique aujourd'hui Jean Frédérics. Un grand merci à Fanny Richier, Brigitte Masson et Laetitia Koslova qui nous ont aidés à préparer cette émission. On se retrouve lundi à midi.